Bonjour, vous écoutez Radio Alplab en direct avec Jeanne, Lucinda et Odile.
Pourquoi je suis en dernier?
Parce que t'es moche.
Et toi, tu t'es regardée?
Les filles, on est en direct là.
Oups, désolé.
Bref, vous êtes sur Radio Alplab. Nous émettons depuis lundi et jusqu'à vendredi depuis le collège de Béthusier à Lausanne. On est en salle A11 pour les fans qui voudraient venir nous rendre visite. Et aujourd'hui, on va vous parler de la roche et des risques qui vont avec.
Aujourd'hui, nous saluons en particulier la classe de Monsieur Cyril de Villeris qui nous écoute en direct depuis leur classe, pas loin de chez nous d'ailleurs, vu qu'ils sont à Villamont. Salut à vous!
Waouh, quelle magnifique musique. Franchement, c'était...
C'est pas moi qui ai choisi.
Odile.
Bon, assez parlé. On a fait quoi mercredi déjà?
Si t'en souviens pas, c'est la journée où on a fait... on va écouter le récit du jour.
En tout cas, je me souviens que c'était le jour où on avait beaucoup trop marché. D'ailleurs, on était tellement complètement crevés quand on est arrivé que c'est le prof qui s'est collé pour faire l'enregistrement à notre place. Alors c'est lui que vous allez entendre raconter notre incroyable journée du mercredi.
En tout cas, on a eu du bol, car si on avait eu la pluie comme le mardi, vous vous imaginez 10 heures sous la pluie, le cauchemar total.
Moi, je me serais inscrite plutôt à Plage Lab qu'à Alplab, c'est sûr.
Il est 18h30, on vient d'arriver à la cabane des Becs de Boisson. La journée était vraiment longue. On est parti à 8h30 ce matin, donc 10 heures de marche. Les élèves ont été absolument exceptionnels. La marche a été dure, dans la descente, quelques frayeurs, de grandes montées, de grandes conférences. Avec Micha, aujourd'hui, ils ont pratiquement étudié pendant 2-3 heures toute la géologie de la région. Donc voilà, je suis devant la cabane. Et je dois dire que je suis assez ému par l'effort, par ce groupe. Depuis 8h30 ce matin, il n'y en a pas un qui s'est plaint. Ils ont un sourire scotché malgré la fatigue, donc ça a été une pure merveille aujourd'hui.
Cette chanson, elle était mieux peut-être?
Bah oui.
C'était Monite.
Bon, donc, le thème du jour, du mercredi, c'était la géologie. En gros, on a travaillé sur des cailloux. Vous vous imaginez, déjà, on se casse les pieds 10 heures sur des cailloux et après, on doit encore les étudier.
Heureusement, on se venge et on les a cassés.
Je me suis même baignée au pied d'un glacier rocheux. Le prof ne voulait pas. Ha! Comme il m'a mis au défi. Alors là, j'ai relevé le défi et hop, à la flotte. La tête qu'il a fait, et pas que lui.
Donc la géologie, en fait, c'est étudier les cailloux pour comprendre comment bouge la Terre.
Mais quel rapport avec le climat?
Ben, je sais pas. Il fait plus chaud, ça fond, ça coule. Ça doit changer, quoi.
Donc, pour réaliser cette interview, on était du côté du Pas de Lena, vers un joli petit lac glaciaire. Il faut vous imaginer qu'on avait déjà marché plus de 7 heures à ce moment-là. Et pendant qu'on faisait l'interview avec Micha, Odile se baignait.
Et ouais, même pas froid.
Un truc incroyable avec ce géologue, c'est quand il nous a fait mettre un pied en Afrique et un pied en Europe. Trop fort. Et cette histoire que les Alpes étaient sous l'eau, et là, sous l'océan Tétis. La prochaine fois, on fait vraiment plage lab, pas Alp lab. Mais bon, faisons place à cette interview.
Quelles sont les roches qui composent cette montagne ? Quelles sont les roches qui composent cette montagne ?
On va prendre cette montagne de Sassner et puis la montagne où on était précédemment, le Cid Maradin. Donc on a vu pratiquement toutes les roches en chemin. Donc d'un côté les roches de la Tétis, de l'autre des roches de l'Europe.
D'accord.
Alors ce que je dirais encore si on a le temps, c'est que vous voyez qu'il y a une longue histoire qui se cache derrière une montagne avec des environnements très différents les uns des autres.
Et pourquoi s'est-on intéressé à l'étude des roches des montagnes ?
Alors, premièrement, c'est parce qu'elles nous renseignent sur notre histoire, ou plutôt sur l'histoire de la Terre. Ça permet de mieux comprendre aussi les mécanismes qui ont formé les paysages, hein, comme ici la chaîne des Alpes. Donc, au niveau de la connaissance, il y a un fort intérêt. Et aussi pour des questions pratiques, parce que les roches contiennent certaines richesses, hein, dont on va parler plus tard. Donc, il y a des minerais, il y a de l'or, du fer ou aussi du cuivre dans la région. Après, on les étudie aussi parce qu'on veut éviter qu'elles représentent des dangers. Donc ça permet aussi de diminuer le risque de glissement, de d'éboulement. Donc voilà un peu les différentes raisons. D'un côté, des raisons scientifiques et d'autres, des raisons pratiques.
Est-ce que les roches peuvent être une ressource pour les hommes, économique ou scientifique ?
Ben oui, donc comme on l'a vu, économique, hein, vu que nous dépendons des ressources, donc toute notre, c'est-à-dire notre vie de tous les jours, dans tout ce que nous utilisons, nous avons des ressources qui sont tirées de la terre. Donc les roches, si je prends un exemple, même le pétrole pourrait être considéré comme une roche. Hein. On a vraiment un intérêt économique là derrière. Sans les roches, nous ne pourrions pas avoir notre mode de vie.
Comment est-ce que le terrain montagnard bouge, se développe ?
Alors, à nouveau, il y a deux échelles différentes. Il y a soit l'échelle, la tectonique des plaques, hein, donc on est sur une échelle de plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est des mouvements qui sont très lents, qui sont de l'ordre du millimètre, du centimètre. Et c'est ce qui va former les montagnes, ce qui va soulever les montagnes, entre autres. Et nous, on n'arrive pas à les voir parce que justement, millimètre par année, c'est comme un ongle qui croît, hein, au niveau de la vitesse. Par contre, on le sent de temps en temps, c'est lorsque vous avez des séismes. Les tremblements de terre sont témoins de ces mouvements. Il y a des sommets qui sont en train de s'élever d'environ 1 mm par année, mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a comme mouvement, et de temps en temps on a aussi des séismes parce qu'on a des grandes fractures qui traversent les Alpes. Mais c'est une chaîne de montagnes relativement calme. Par contre, en surface, ce qu'on voit bien, nous, par contre, c'est ce qu'on a ici en surface, c'est le mouvement comme en face, ce magnifique glacier rocheux. On s'imagine les blocs qui bougent. Hein. Donc on a l'exemple du glacier rocheux, des éboulements, des éboulis, des glissements de terrain. Vous avez vu aussi les glaciers, comme ils bougent. Donc ça, c'est beaucoup plus perceptible.
D'accord.
pour les séismes, il y a un endroit où il y a beaucoup de séismes particulièrement?
Oui. Alors il y a un endroit en particulier, c'est le Valais. Et on peut s'attendre en Valais à des séismes jusqu'à 7-8 sur l'échelle de Richter.
Est-ce que ces mouvements représentent des risques pour les activités humaines et pour la nature qui vit dessus?
Alors, tout d'abord, pour la nature, on s'imagine, oh, pas tellement, hein, ce sont peut-être quelques chamois, quelques marmottes qui y passent quand on a un éboulement. Si vous, voilà. Par contre, pour les hommes, c'est nettement plus préoccupant lorsque vous avez un éboulement, un séisme. Si on a construit un village en dessous, une route, c'est là que ça représente beaucoup de risques. Parce que le risque, il vient du fait que l'homme s'est implanté dans les vallées. S'il n'y avait pas l'homme, il n'y aurait pas de risque.
Les changements climatiques actuels observés en montagne ont-ils une influence sur les sols et sur la manière dont on imagine de les utiliser aujourd'hui et dans le futur?
Par exemple, pour avoir des coulées de boue, pour avoir des les inondations, mais les glissements de terrain, ils ont besoin d'eau pour que ça se produise. Donc, vu que le climat devrait être plus humide, ça reste à confirmer, oui, ça représente un nettement plus gros risque. Et puis, vous l'avez mentionné aussi, il y a la fonte du pergélisol, donc ce sol qui est tout le temps gelé, qui pourrait aussi faire en sorte que vous avez des terrains qui glissent. Si ces terrains sont pentes, ils sont fixés par la glace, ce qui représente ma main, tout va bien. Au moment où la glace fondra,
tremble. Est-ce qu'en lisant l'évolution de la montagne jusqu'à aujourd'hui, on peut imaginer son futur? Si oui, comment et jusqu'à quand?
Alors, de nouveau, c'est sur quelques dizaines d'années, je pense que oui. On peut plus ou moins prévoir l'évolution, surtout par exemple dans le cas avec la fonte des glaciers. Ensuite, sur un plus long terme, ça devient plus aléatoire. Par exemple, si on laisse la nature faire, s'il n'y avait pas d'influence humaine, on devrait retourner dans une grande glaciation dans 50 000 ans environ. Donc on aurait de nouveau toutes les montagnes englacées. Mais maintenant, on est en train de modifier un peu l'équilibre climatique, donc ça reste à voir. Par contre, on peut même s'imaginer les choses dans 50 millions d'années. C'est un géologue qui s'est amusé, donc là, de nouveau à l'échelle de la tectonique des plaques, à reconstituer la Terre dans 50 millions d'années. Et ce qu'on va voir, c'est que les Alpes seront peut-être en partie un peu rabotées, seront plus des collines. Hein. Elles seront, avec l'érosion, les choses vont s'attendrir, le relief sera plus doux. Par contre, on aura une nouvelle chaîne de montagnes ici au sud, à la place de la Méditerranée.
Oh, okay.
Donc on aura les monts Méditerranée.
Par rapport aux activités en montagne, comment établit-on le risque en fonction du terrain, des sols?
Alors, de nouveau, la première chose, c'est d'observer. Hein. On relève aussi, même des fois, historiquement, on va même regarder dans les écrits, même du Moyen-Âge, qui retrace ce qui s'est passé dans un village, s'il y a eu des éboulements comme ça. On essaie de retrouver, avec l'histoire de la région aussi, quels sont les événements qui ont affecté les endroits. On peut aussi étudier dans les roches, parce que les roches peuvent être tout à coup tombées sous forme d'éboulement, peuvent se déstabiliser. On va regarder s'il y a des fractures. Après, on a des moyens plus indirects, avec des moyens qui sont dits géophysiques. On envoie des ondes dans le sol. Puis comme on est à l'ère informatique, on utilise aussi des simulations informatiques. Il n'y a rien qu'à penser à cet été qui était particulièrement pluvieux. Ils ont montré que dans le canton de Vaud, ils avaient fait des constructions, surtout pour les rivières, pour les coulées de boue, pour les inondations. Ils avaient réussi à construire des ouvrages qui permettaient d'éviter les catastrophes.
imaginez-vous cet endroit dans 50 ans?
Alors, ici, au lac de Lona, franchement, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'évolution. Je pense que cet endroit sera protégé aussi, donc on ne va jamais construire, normalement on ne devrait pas construire de route ou d'infrastructure. Ouais. Donc, dans 50 ans, on pourrait revenir et plus ou moins contempler le même paysage. Du moins, je l'espère.
D'accord. Je peux vous poser une dernière question?
Ouais.
Juste sur le métier de géologue. Déjà, combien de temps ça prend d'étudier tout ça? C'est long ou pas vraiment?
Les études de géologie, alors actuellement, sont des études qui prennent au minimum 5 ans. Parce que la géologie n'est pas limitée à l'étude des roches. Hein. Il y a beaucoup d'autres domaines dans la géologie qui existent. Hein. On a besoin du géologue, bon, entre autres pour rechercher du pétrole, des minerais, comme on l'a mentionné aussi pour réduire les dangers naturels, aussi pour gérer l'eau. Le géologue est aussi important. Donc il y a pas mal de professions diverses derrière celle de géologue.
D'accord, ok.
Merci.
Voilà.
C'était Vanessa Carlton, Paint It Black.
Après cette interview, on s'est vraiment demandé si c'était possible que la montagne nous tombe sur la tête.
Mais avant de continuer notre enquête sur la chute des Alpes, on va faire un petit retour à la cabane des Becs de Bosson.
Ouais, quand on l'a vu, c'était le plus beau moment de la journée.
À part pour Déborah.
Ah ouais, elle a fait une petite crise d'hyperventilation, mais elle s'est fait sauver par notre super guide Pascal, qui heureusement est aussi sauveteuse sur les pistes de Grimens.
Nous y sommes arrivés donc.
Ouais, hier, Camille et Alexane, dans leur émission, se posaient la question de savoir s'il fallait des cabanes luxurieuses ou plutôt rustiques. Après être passé par le confort de Moiry, on est arrivé à la cabane des Becs et là, ça a vraiment changé. Alors, écoutons une description de cette cabane. À la fin de cette brève chronique, vous entendrez le cœur d'homme des Suisses allemands qui étaient avec nous à la cabane et qui ont passé leur soirée à chanter.
C'était pas possible, on n'arrivait pas à dormir, le monde à l'envers.
Ouais, logiquement, c'est nous qui devrions les faire rester éveillés. Enfin, on vous laissera apprécier.
Arrête. Description de la cabane des Becs de Bosson. Dans la cabane des Becs de Bosson, il y a deux parties, une plus traditionnelle que l'autre. Dans la partie récente, il y a des baies vitrées et le poids est plus nouveau. Elle sert à se détendre. Il y a aussi des chaises longues, des tables et 5 dortoirs. Il y a des toilettes qui sont sèches. Dans la partie plus traditionnelle, il y a des tables pour manger et la cuisine.
Voici la comparaison entre la cabane de Moiry et la cabane des Becs de Bosson. La cabane de Moiry est beaucoup plus grande et plus luxueuse. Il y a plus de personnes qui s'en occupent et des enfants y habitent. Il y a de l'eau courante et des toilettes normales. Il y a beaucoup plus de dortoirs. Elle peut accueillir environ 100 personnes. Contre seulement 50 pour la cabane des Becs de Bosson.
Le réfectoire était beaucoup plus grand, plus lumineux grâce à une énorme baie vitrée. Et il y avait un séchoir pour les affaires mouillées. La cabane des Becs de Bosson avait juste l'endroit détente en plus. Nous avons préféré la cabane de Moiry parce qu'elle était plus confortable. Mais la cabane des Becs de Bosson était plus traditionnelle, plus rustique, ce qui fait que les gens étaient plus conviviaux.
Bien, après ce petit retour en arrière, on reprend en direct de nos studios de Béthusy et pendant la musique, le prof m'a demandé de passer quelques remerciements.
Alors un grand merci à Micha Schloup pour la journée du mercredi et également à John Van Toyn de l'Université de Lausanne pour ses contacts et pour nous avoir reçus à la Faculté de Sciences de la Terre à Lausanne. Merci, voilà c'est dit. Au fond du studio, notre prof se relaxe.
Surtout qu'on vous l'a pas dit, mais aujourd'hui, tout le monde est un peu sur les dents. Car hier, à cause des problèmes techniques, le direct a coupé et les classes qui nous écoutaient ont été privées de radio.
Les pauvres ! Mais revenons à nos cailloux. Donc, on s'est demandé si les Alpes allaient tomber et quels risques les changements climatiques nous font courir. Et c'est pour ça que nous avons demandé à un guide de venir répondre aux questions que vous posez sur Facebook et de faire la lumière sur nos interrogations.
Donc, mesdames et messieurs, merci d'accueillir Frédéric Jordan, guide ingénieur. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais très bien, merci.
Avant de me démarrer avec les questions, nous vous laissons le soin de vous présenter un peu à nos auditeurs.
Alors, je suis effectivement guide de montagne, mais aussi ingénieur civil. Et je travaille dans un bureau d'ingénieur qui s'appelle Hydric à Lausanne. C'est un mot qui fait penser aux ressources en eau. Et donc, nous sommes actifs sur les thèmes des crues, de l'hydroélectricité et de l'assainissement des eaux.
Ok, donc comment les changements climatiques vont changer les précipitations ?
Alors ça, c'est une question qui intéresse beaucoup de monde dans le domaine de l'hydrologie. La première chose à dire, c'est que ça dépend des régions. On peut s'intéresser au monde entier, mais là, on va peut-être répondre sur la région des Alpes. Et on s'attend à ce que dans les Alpes, les changements climatiques modifient le régime des précipitations en hiver, avec une augmentation moyenne des précipitations de peut-être 20% environ, et une diminution des précipitations plutôt en été. Donc on a peut-être plus de neige en montagne pendant les hivers, et plus de sécheresse, de périodes de beau temps en été. C'est ce que la plupart des modèles donnent.
D'accord. Avec les changements climatiques, quelles conséquences pour l'agriculture et l'élevage s'il y a moins d'eau ?
Alors, de nouveau, on n'a pas les mêmes problèmes en Suisse qu'en Afrique ou que proche des déserts. En Suisse, on a un souvenir récent, c'est l'année 2003, lors de laquelle il y a eu une sécheresse très marquée du mois de mars au mois de septembre. Et là, il y a eu des problèmes pour l'agriculture, en particulier dans la région du Mittelland, donc entre Berne et les lacs de Neuchâtel, Morabienne, où la possibilité d'irriguer les cultures a été supprimée. Et on s'attend donc, d'ici à 2030, à 2050, à un certain nombre de difficultés. Donc la possibilité que des années comme l'année 2003 se répètent augmente. Et donc, les risques à ce moment-là, c'est que de tout à coup, fin juillet, début août, les agriculteurs ne puissent plus utiliser de l'eau pour arroser les plantes. Et très rapidement, ça conduit à une perte de production agricole. Il faut peut-être savoir que les sources pour arroser ces champs proviennent soit de la nappe, mais quand on est en période de sécheresse, le niveau de la nappe est bas. Dans la région du Mittelland, ça provient surtout des cours d'eau. Et les cours d'eau, en période de sécheresse, ont très peu d'eau, et donc on n'a plus le droit de prélever l'eau. Et là, les cantons vont dire aux agriculteurs, attention, vous n'avez plus le droit de prendre l'eau dans les cours d'eau, et eux n'ont tout à coup plus la possibilité d'irriguer leurs champs.
Les risques d'inondation vont-ils augmenter ?
Alors, en ce qui concerne les risques d'inondation, il faut considérer deux facteurs. Les inondations, c'est d'une part des fortes précipitations, mais d'autre part, c'est l'impact de ces précipitations sur les cours d'eau et surtout sur les gens, donc les biens, les maisons, les infrastructures et les personnes. Alors moi, je dirais que ce qui fait surtout augmenter le risque d'inondation, c'est pas le fait que les précipitations deviennent de plus en plus fortes. On s'attend pas à ce qu'elles deviennent de plus en plus fortes. On s'attend peut-être à ce que des fortes précipitations arrivent plus souvent. Ce qui cause vraiment des problèmes, c'est l'utilisation du sol et le fait que l'homme s'installe de plus en plus dans des régions à risque. Et que, d'un autre côté, par les infrastructures, il imperméabilise de plus en plus les sols. Ce qui fait que, quand il pleut, on a plus d'eau qui vient très fortement, qui risque de déborder de la rivière, donc qui va arriver dans la rivière et ensuite déborder. Donc c'est surtout au niveau de l'aménagement du territoire et de la place que prennent les humains sur le territoire qu'il y a un travail à faire pour réduire ces risques d'inondation.
Est-ce que la fonte des glaciers peut polluer la terre ?
Alors là, je vais vous répondre d'un point de vue plus conceptuel ou philosophique que par des faits. Probablement pas, parce que les glaciers constituent une réserve d'eau qui a mis des centaines, voire des milliers d'années à se constituer. Et elle ne va pas fondre en 3 mois. Donc ça va prendre des dizaines d'années pour fondre. Et donc, même si les glaciers étaient partiellement pollués, cette pollution ne viendrait pas d'un coup. Donc, a priori, ça ne sera pas un gros problème de ce point de vue-là. Un autre élément, il faut savoir que si on se place juste à l'aval d'un glacier, vous étiez à Moiry, donc si vous vous placez au lac de Moiry, la part de fonte de glacier dans l'écoulement en été, c'est de l'ordre de 15%. Donc c'est encore beaucoup. Mais si vous descendez par exemple à Genève, à Villeneuve, lorsque le Rhône se jette dans le lac Léman, la part d'eau issue de la fonte des glaciers n'est plus que de 1%. Donc même si cette part-là était partiellement polluée, finalement elle serait très fortement diluée par le reste des écoulements. Et donc l'effet serait probablement peu sensible. Pour les questions de pollution, on s'intéresse en général à des processus locaux et c'est moins des processus globaux qui génèrent les pollutions, mais c'est vraiment des particularités locales.
Nous sommes de retour avec notre invité, M. Frédéric Jordan, pour les questions. On voulait tout d'abord vous remercier entre-temps, les classes, pour vos questions, et on va reprendre. La Suisse va-t-elle manquer d'eau ?
Alors non, de manière générale, pas du tout. Il est possible que localement, certaines années, il y ait des manques d'eau, mais ça reste un problème local, marginal. Et là, il est tout à fait possible de s'organiser pour que ça ne cause pas de problème particulier.
D'autres pays vont-ils en manquer à cause des changements climatiques ?
Alors ça, certainement. Si on voit qu'en Suisse et dans les Alpes, le régime des précipitations ne va pas beaucoup changer, On sait qu'il peut changer beaucoup plus fortement dans d'autres régions du monde. Je connais particulièrement deux cas qui sont déjà avérés, où les gens remarquent une pénurie d'eau depuis une dizaine d'années. Le premier, c'est l'Iran. Certaines régions d'Iran ont vu les précipitations diminuer de 85% en 10 ans, ce qui conduit à des graves sécheresses et des situations un peu similaires à ce qui est connu sur la mer d'Aral. Un lac s'appelle le Urumiya Lake, en Iran, justement, est en train de totalement se vider par évaporation parce qu'il n'est plus du tout approvisionné en eau. Et les questions que nous posent ces gens-là sont plutôt comment faire pour que les nuages donnent de nouveau de la pluie. Donc c'est vraiment un problème grave. Un autre très grand pays qui souffre de pénurie d'eau, c'est la Chine, qui d'une part doit lutter contre des crues du Yangtze extrêmement fortes, mais en parallèle souffre de sécheresses chroniques. Et eux aussi observent déjà depuis quelques années une accélération de ces problèmes de sécheresse.
Pourra-t-on skier dans 30 ans ?
Mais oui. Je ne sais pas quelle forme aura les skis, puisqu'ils changent chaque année, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse plus skier. Peut-être que les stations à la mode ne seront plus les mêmes que celles actuelles.
Un écoulement près du lac Léman peut-il faire un raz-de-marée ?
Alors, j'ai entendu parler de ce phénomène. Si mes souvenirs sont bons, on s'intéresse à on connaît un événement qui se serait passé autour, je crois, des années 500 ou 600. Mais là, certainement que je me trompe sur les dates. Mais en tout cas, il y a très très longtemps, où un écroulement sous-marin a produit une vague. Mais le risque est très très faible.
Et que peut-on faire pour revenir à un climat qui crée moins de risques ?
Alors, il semble avéré que l'homme a une certaine responsabilité dans les changements climatiques, en particulier en lien avec sa consommation d'énergie fossile, c'est-à-dire pétrole, charbon. Je compte vraiment sur votre génération ainsi que la nôtre pour réussir à influencer le cours des choses. Et il s'agit vraiment de moins utiliser ces énergies qui produisent du CO2, de l'effet de serre et donc un réchauffement planétaire. Il faut se tourner vers des sources d'énergie plus propres. Ça a un coût, mais c'est un effort qui vaut la peine d'être entrepris.
D'accord.
Nous avons une question particulièrement pour nous. Y a-t-il quelque chose qui nous a particulièrement choqué pendant l'expédition ?
Moi, pas trop.
Alors, en tout cas, ce qui nous a choqué, c'est que c'était long. La marche était longue, personnellement.
Et puis, on a vu à Moiry le glacier fondre et des pans de glacier tomber. Et ça, c'était assez impressionnant, mais vraiment choqué, je crois pas. Donc, maintenant, on a fini les questions. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, et puis voilà.
Oui, merci beaucoup.
C'était un plaisir.
Faudra voir, faut qu'on écoute.
reprend le fil de notre émission. On a quoi maintenant ?
Maintenant, un petit épisode de retour vers le futur pour vous nous expliquer les avantages et les inconvénients de la technologie si chère à notre humanité.
C'est à peu près ça. Pendant notre semaine, on a vu pas mal de guides travailler beaucoup avec des GPS et pas forcément avec des cartes. Alors, on s'est demandé pourquoi. En gros, quels sont les avantages des GPS aux cartes et inversement. C'est pas clair ce que je dis ?
Si.
Bref, on écoute notre guide Bertrand qui nous explique tout ça.
Alors, aujourd'hui, on va faire les traditions aux technologies et on est avec Bertrand qui nous renseigne un peu sur la carte et le GPS. Alors, la première question c'est, quels sont les avantages et inconvénients du GPS et de la carte ? Pourquoi et comment ?
Eh bien, c'est vraiment une question très intéressante et puis je suis content que vous me la posiez. Alors, avec une carte, on n'a aucune panne. Avec une carte, on n'a absolument aucun problème de batterie. Avec une carte, eh bien, ça coûte pas très cher, c'est 13,50 francs.
Ouais, ça va.
Avec une carte, quand on a un petit souci, s'il y en a une qui s'abîme, eh bien, on en prend une deuxième. Quand on est dans un groupe, on prend deux fois la carte. Avec la carte, je commence par les avantages de la carte, voilà. Vous avez compris, ça va pour vous ?
Oui.
Avec la carte, si on doit faire des dessins pour montrer l'itinéraire, eh bien c'est très facile parce qu'on prend un crayon, on prend un marqueur fluo, comment on appelle ça, un stabilo boss. Enfin, je crois que c'est une marque qu'on n'ose pas trop, mais c'est pas grave. Et puis on peut dessiner facilement sur la carte. Avec la carte, on peut se mettre à 1, 2, 5 ou 10 personnes autour de la carte. Avec la carte, on a la possibilité de s'installer autour d'une table et puis c'est très sympa. Avec un récepteur GPS, à l'inverse, eh bien, on doit se mettre parfois très très proche les uns des autres parce que l'écran est tout petit. Avec la carte, on peut facilement utiliser la boussole pour tirer les azimuts. Donc ça fait beaucoup d'avantages de la carte. Et puis ensuite, peut-être encore un avantage supplémentaire, ou en tout cas un intérêt, on ne va pas peut-être tout de suite dire des avantages, mais un intérêt de la carte, c'est que c'est très très bien connu, c'est très utilisé. En Suisse, on a peut-être des cartes qui sont parmi les meilleures du monde. En tout cas, on peut dire que les cartes topographiques au 25 millième en Suisse, elles font rêver le monde entier, tellement elles sont bien. Bah, ça fait 150 ans qu'on utilise les cartes topographiques. On a toute une série de livres et beaucoup de connaissances. Dans les avantages du récepteur GPS, eh bien, vous avez deux informations qui sont données par le récepteur GPS avec une précision inouïe. Vous avez la position, même avec un récepteur de poche qui pèse 160 grammes. Si le récepteur fonctionne, vous avez la position à 3 mètres près. Et ça, c'est impossible avec une carte topographique. Parce qu'avec une carte topographique, même au 25 millième ou 1/25 millième, eh bien, vous prenez un trait de crayon, à peu près 1 mm, il fait 25, ça représente 25 mètres. On est incapable d'avoir une précision à 3 mètres près avec une carte topographique, avec un récepteur GPS, donc on a une précision supérieure. Avec le récepteur GPS, lorsqu'il fonctionne, eh bien, et lorsqu'il fonctionne correctement, vous avez une possibilité de savoir où vous êtes, encore une fois avec une précision incroyable, en l'absence de point de repère. Vous n'avez pas de chemin, tac, vous avez la position. Vous n'avez pas de bloc particulier, vous êtes dans le brouillard ou dans la nuit, vous êtes capable de savoir où vous vous trouvez. Deuxième avantage, donc le premier avantage, une précision inouï. Ensuite, deuxième point que le récepteur GPS donne, qu'on oublie parfois, c'est l'heure. Le récepteur GPS, il vous donne l'heure avec une précision que les montres n'atteignent pas. Une précision largement inférieure à la seconde. Avec ces deux informations, la position
très précise, l'heure ultra précise, eh bien vous pouvez organiser un déplacement d'une manière intéressante. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les récepteurs GPS modernes, eh bien, on a l'ensemble des cartes topographiques qui sont enregistrées. Donc vous avez un peu les deux informations. Donc c'est un avantage particulier, parce que non seulement vous avez la position, vous avez l'heure, mais vous avez la carte. Dans les désavantages de la carte, si vous la sortez lorsqu'il y a du vent, pouf, elle s'envole. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'avais l'air malin. Il y avait du brouillard et du vent, j'étais tout jeune. Et puis j'ai perdu ma carte, mais c'était affreux. J'étais avec un copain, on n'a jamais eu aussi peur de notre fille. Ensuite, dans les désavantages du récepteur GPS, vous avez peut-être compris un petit peu entre les lignes, eh bien c'est un appareil électronique. Il y a besoin de batteries, les batteries ne durent pas très longtemps. Puis les batteries, au point de vue environnemental, c'est vraiment de la sale. C'est pas optimal. Ça coûte beaucoup d'énergie. Vous êtes d'accord? Oui. C'est l'énergie qui est la plus chère et la plus polluante qui existe. Et on a besoin des batteries. Une fois qu'on a utilisé notre batterie, il y en a qu'on peut recharger, mais ça ne marche pas très très bien dans les récepteurs GPS, donc il faut les ficher loin. Donc on en consomme beaucoup. En gros, il faut deux batteries AA par jour. Donc c'est un coût énergétique monstrueux.
Sinon, si vous deviez choisir entre le GPS et la carte... En montagne, vous prendriez...
Alors en montagne, je prends toujours la carte topographique et je prends pas toujours le récepteur GPS.
Donc encore merci à Monsieur Frédéric Jordan qui a répondu à vos questions. Et on vient de recevoir sur Facebook des compliments, donc on voulait beaucoup vous remercier et c'était très gentil.
Oui, on ne pensait pas qu'on était aussi fortes, merci quand même.
À midi, on est libre si jamais, enfin, surtout moi.
Bon, on va continuer notre émission avec un jeu. Alors ouvrez bien vos oreilles, car vu qu'on est à la radio, on va vous faire deviner des bruits.
Et vous pouvez répondre en ligne sur notre page Facebook, pour une fois que vous pouvez aller sur Facebook pendant un cours. Il faut en profiter.
À vous de jouer.
L'explication pour les jeux de son. Alors, vous allez entendre un son quelconque qu'il faudra essayer d'identifier. Après une petite réunion de classe, envoyez-nous votre réponse par message.
Alors, vous avez deviné? C'est quand même pas bien compliqué. Et je ne vous dis pas à combien de reprises on a dû s'y prendre pour l'enregistrement. La classe d'hier a deviné. Pour vous, c'est un peu plus compliqué.
Voilà, toute cette émission était très intéressante. Pour le quiz, les réponses sont sur notre site internet www.alplab.ch.
N'oubliez pas de nous envoyer le nom du ou des gagnants.
Ils recevront un super cadeau.
Ah bon, c'est quoi?
Un abonnement à l'année pour le ski de fond dans la cour.
On est arrivé à la fin de notre émission. Dans le studio, tout le monde se calme.
C'est quand même stressant ce direct.
On vous remercie de nous avoir écoutés. Demain, deux invités dans notre émission. Pascal Helger, notre super accompagnatrice de montagne, et Sarah Hubert de la Fondation pour le développement durable en montagne.
Et un thème d'actualité à 10 jours des vacances alors qu'il n'y a pas un pet de neige en station. Le tourisme durable dans les Alpes.
À demain. Oh, shit.
Radio.
Radio. Adnab.